Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, Guillaume Lavoie avec vous. Merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Bien des choses se passent et nous avons vu ensemble l'annonce de Donald Trump. Eh bien là, c'est fini. L'effeuillage est terminé. Il a franchi le Rubicon. Il a dit qu'il serait candidat à la présidence. Il le fait présentement au sein du Parti républicain. Mais je suis pas certain que c'est comme ça que ça va finir. Ou en tout cas, cette fois-ci, le Parti républicain semble beaucoup plus disposé cette fois-ci, ou plutôt cette fois-ci, plutôt que les deux dernières, à s'arranger pour que ce soit pas lui. Et on le voit pas seulement à l'intérieur du Parti républicain, mais beaucoup aussi dans les grands Manitou, par exemple, M. Murdoch, qui est le propriétaire d'un énorme groupe médiatique, dont Fox News, The Wall Street Journal et le New York Post. Et dans le New York Post, et il faut que je vous dise ça sans rire, parce que c'est vraiment une pointe très acerbe face à Donald Trump. La couverture de la chose, c'était une petite bande en bas de la première page où on disait « Un homme de Floride fait une annonce ». On ne prononce pas le nom de Trump et semble-t-il que ne pas dire Trump, ne pas parler de Trump, c'est ce qui fâche le plus le principal intéressé. Alors, on va voir ça pour la suite des choses. Et évidemment, vous avez vu cette nouvelle qui a inquiété beaucoup de monde avec raison, sueur froide au rendez-vous. Un missile que l'on pensait au départ russe qui est tombé non pas en Ukraine, mais l'autre côté de la frontière, dans l'est de la Pologne. Et là, véritablement, il faut peut-être prendre le temps de regarder les choses qui vont bien. C'est-à-dire que cet événement-là, qui aurait pu être un déclencheur ou une espèce de une étincelle qui mette le feu à un baril de poudre pour lequel les conséquences ne peuvent être que funestes, bien, il y a eu, je vous dirais, à travers le monde, énormément de retenue et de calme. Un peu comme lorsque John F. Kennedy, dans la crise des missiles de Cuba, il y avait un avion américain abattu et Kennedy avait dit « On est peut-être mieux de ne pas réagir tout de suite sur cet enjeu-là avant que ça se mette à déraper. » Kennedy avait aussi dit, parce qu'il est question ici de jeu nucléaire entre l'OTAN et la Russie. Et à l'intérieur de l'OTAN, vous avez les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Les trois sont des puissances nucléaires. Ce n'est pas rien. Et Kennedy avait dit dans son discours inaugural, il faut être très prudent pour ne pas que le monde finisse, que notre civilisation meure dans une guerre nucléaire qui serait soit planifiée ou pire, accidentelle. Et c'est à peu près les mots que Joe Biden avait utilisés également lorsqu'il disait qu'il y a une chose de pire que de devoir aller en guerre, ou plutôt d'être en guerre de manière obligée, c'est de s'y rendre de manière accidentelle, par le jeu des alliances, des dominos, où à chaque fois on se dit, puisque telle action a été posée, il doit y avoir cette contre-réaction. Dans un monde où les enjeux sont à ce point critiques, où les armes nucléaires ont comme conséquence l'annihilation de nos civilisations, c'est peut-être le temps de, ici, arrêter le jeu, calmer le jeu, essayer de trouver, y aurait-il d'autres explications? Et est-ce que c'est vraiment le moment de déclencher les hostilités sur cette chose-là? Et là, ce qu'on apprend, c'est que ce serait peut-être un missile d'autodéfense ukrainien qui aurait manqué sa cible en essayant de contrer un missile russe qui serait tombé du côté polonais. Dans tous les cas de figure, prendre son temps ici est peut-être la meilleure des choses.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc Laliberté.
Bonjour Luc.
Ouais, bonjour Guillaume.
Grosse soirée encore, cette fois-ci. Trump a franchi le Rubicon, il est candidat. Et là, il est allé d'un petit discours, à peu près une heure et quelques, presque. Alors, et c'est fascinant comment il revenait sur les faits. Alors, on pourrait même dire l'histoire réécrite selon Trump. Là.
Écoute, j'ai eu des relents en écoutant ce discours-là hier, des relents de son discours d'investiture de 2017. Je me souviens, j'étais là au National Mall parmi la foule qui n'était pas record, hein, pour revenir sur des déclarations de M. Trump. Mais M. Trump comparait finalement la situation des États-Unis en 2017 à ni plus ni moins que l'apocalypse dont il était le seul à être en mesure de préserver ses concitoyens.
Ouais, c'était par extension. Le carnage, ouais. Là, c'est le mot qui avait été utilisé.
Voilà. Voilà, donc on avait un peu cette impression-là hier, c'est-à-dire que si on y cherchait encore des faits, ou si on y cherchait encore une prise avec le monde dans lequel la majorité d'entre nous vivons, qui, je l'espère, est le monde réel, ben on n'était pas étonné. Moi, ce qui m'a surpris plutôt, c'est l'attitude de M. Trump pendant son discours, à tout le moins, parce qu'il y a eu deux portions. Il y a une portion où il lit finalement un télésouffleur et il y a une portion où il revient à un Trump un peu plus naturel ou un Trump sans ses notes. Mais la première partie, je le trouvais atterré, peut-être un mot qui était un peu fort, mais on n'avait pas l'impression qu'il souhaitait être là. Et mine de rien, M. Trump, qui aime bien les premières historiques, puis je t'entendais pendant ton éditorial en début d'émission, M. Trump, mine de rien, s'apprête à faire peut-être deux choses qui sont historiques. Il y a un seul président dans toute l'histoire américaine qui est parvenu à obtenir deux mandats sans que ces mandats-là soient consécutifs. On parle de M. Cleveland. On est au 19e siècle, ça fait très longtemps. C'est quelqu'un qui, au plan de la personnalité puis du contexte, n'a rien à voir avec Donald Trump. Donc, contexte
non, c'est pas un comparable facile, là.
C'est loin d'être évident. Et l'autre chose, Guillaume, parce qu'on s'en va peut-être vers ça, et j'y ai pensé en t'écoutant parler tout à l'heure, est-ce que M. Trump pourrait être celui qui va faire de la prochaine convention républicaine quelque chose qu'on ne voit pas souvent? C'est-à-dire, pourrait-il diviser le vote républicain et partir avec les siens pour se lancer sur une plateforme indépendante? Il y a un ancien président qui a fait ça en 1912, et je suis convaincu qu'en te nommant le nom, ça te revient si tu n'y avais pas déjà pensé.
Théodore!
Voilà, Teddy, ce bon vieux Theodore Roosevelt qui dit finalement, après ses deux mandats, à l'époque, on n'avait pas encore d'obligation constitutionnelle de cesser ou de se retirer au-delà de deux mandats. Lui revient, il n'est pas content de ce que M. Taft, son successeur, a fait. Puis il dit, ben écoutez, je vais être le candidat, moi, contre Woodrow Wilson. Et il a plutôt contribué à la défaite du Parti républicain en scindant, littéralement le parti en deux. Et ouais. C'est ce que plusieurs stratèges républicains craignent actuellement. C'est le Trumpisme sans Trump, c'est loin d'être évident. On risque de perdre des électeurs, des partisans de M. Trump. La question est de savoir combien. Et M. Trump, on le sait, c'est encore une force politique, même si, comme tu le soulignais avec justesse tout à l'heure, même si les républicains savent qu'ils sont condamnés à la défaite s'ils se rangent encore une fois derrière lui.
Mais Luc... tu vois, moi, je pense aussi, là, je disais, Trump, c'est un peu un bâton de dynamite allumé, puis on a juste peur qu'il nous éclate dans les mains. Il y a beaucoup de gens au Parti républicain qui sont très inquiets, mais la dernière fois, c'est-à-dire on est en 2016, alors il est dans cette course à la nomination, il était le plus en avance, mais il n'était pas complètement dominant. Ce qui l'a un peu sauvé, c'est que son opposition était incroyablement divisée. On se souvient, là, la plateforme pour qu'il y ait plus de candidats.
On faisait même deux débats, puis les gens faisaient des blagues, je me souviens même sur les réseaux conservateurs, en disant, il y a le débat des grands, puis il y a la table des petits.
Fois-là, penses-tu que parmi les républicains, il y a des gens qui vont se parler, qui vont se dire, ben est-ce qu'on ne devrait pas se parler entre nous pour éviter justement qu'il y ait trop de candidats contre Trump et que l'on divise le vote? Parce que si c'était un match à deux, c'est pas clair que Donald Trump peut l'emporter. Et même un match à trois seulement, c'est pas clair qu'il peut l'emporter. Alors, il faut voir un peu comment ces choses-là vont se placer. Alors, justement, et Luc, pendant qu'on rétablit notre communication pour être certain que ça fonctionne bien notre affaire, la grande question, c'est est-ce que les financiers du Parti républicain et les autres candidats potentiels vont s'allier? Est-ce qu'il y aura une coalition anti-Trump menée par... Et là, la question, c'est tout le monde va dire « Moi, je suis d'accord avec ça du moment que ce soit moi qui l'emporte à la fin. »
Ouais, voilà. Écoute, il y a deux choses qui ont changé pour M. Trump depuis 2016. La première est qu'il a un bilan qui est très différent. La première fois, en fait, il n'a pas de bilan. C'est la nouveauté et il rapporte énormément d'électeurs et de codes d'écoute. Tu référais tout à l'heure à Murdoch, au groupe Murdoch, Fox News, le Wall Street Journal. Donc, effectivement, il a été largué de ce côté-là et c'est son bilan qu'on a peur de traîner. Le contexte est bien sûr très, très différent. Ce n'est plus la saveur du mois. On pense qu'il nous handicape. Donc, l'effet nouveauté n'est plus là. On considère plutôt que c'est mieux de s'en départir. Oui, c'est encore possible si jamais on est trop divisé entre les multiples candidats. C'est encore possible qu'on fasse le jeu de M. Trump. Mais je pense que les Républicains ont retenu la leçon de 2016, de 2015.
Mais là, il y a des. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est intéressant de voir les répliques. Là, par exemple, Mme Cheney qui s'était fait insulter par Mme Lake en Arizona en disant « Mme Cheney, vous contribuez à ma campagne. » Elle vient de lui envoyer un « Bienvenue, ça m'a fait plaisir. » Mais c'est Jeb Bush que Trump avait ridiculisé en disant « Il n'y a pas d'énergie, il était « low energy ». Ben là, Jeb Bush qui envoie comme message « Monsieur Trump, vous étiez « low energy » hier soir. » Et à la fin, alors moi, c'est la première page du New York Post, un homme fait une annonce en Floride. Ça me rappelait, on va parler de nos classiques dans les Simpsons, à un moment donné, il parle de grand-papa Simpsons, et c'est un homme crie contre un nuage. Ça avait l'air à peu près ça, là. C'est une moquerie forte de l'establishment.
Mais écoute, on a vu à quel point, finalement, Trump, c'est une greffe forcée au Parti républicain. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas hésité, M. Trump. En fait, le Parti républicain paie pour un pari qu'on a fait en 2016, qui a été payant. Si on pense à la Cour suprême, là, on a eu ce qu'on souhaitait. On a eu trois nominations très conservatrices.
Tout le monde s'est pincé le nez en échange d'avoir quelque chose.
Voilà, maintenant on a le droit à un combat de lutte dans la boue et c'est ce qui nous attend là, avec M. Trump. Pendant combien de temps? Ben là, on va essayer de limiter les dégâts. Mais je répète, on a vécu finalement à crédit avec M. Trump pendant un certain temps. Maintenant, il faut payer les factures. Et ce qu'on voit, ces petites manifestations, c'est pas de la grande politique, on n'a pas de débat idéologique profond, mais après avoir insulté tout le monde, ben voilà, la tempête revient puis il y a beaucoup de monde qui ont été écorchés par M. Trump. Je te ferai remarquer, parce qu'on parlait d'éventuelles candidatures pour 2024, que le seul qui a manifesté contre M. Trump récemment, mais qui l'a fait en des termes que Trump, à la limite, pourrait accepter, c'est l'ancien vice-président, c'est Mike Pence. Le président met sa vie littéralement en jeu, et j'ai pas trouvé que la condamnation était très forte. Personnellement, de façon très spontanée, si on avait déchaîné les gens contre moi puis que les services de renseignement avaient dû m'isoler, il y a fort à parier que mon langage et mon ton auraient été différents de ce qu'a utilisé Mike Pence.
Mais Mike Pence parle jamais un mot plus fort que l'autre. Alors, on va voir comment ça va se passer. Luc Laliberté, merci de suivre ça pour nous. On se reparle. Au plaisir.
Parfait. Bonne fin de journée, Guillaume.
Bye-bye.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Vous avez vu de plus en plus, évidemment, dans la préparation à la COP, dans cette idée de réflexion sur le bilan des gaz à effet de serre, sur le rôle du Québec, sur ce qu'on peut faire. Eh bien, il y a une étude qui vient de sortir de l'IRIS. C'est ce groupe de recherche socio-économique de l'UQAM ou qui est basé à l'UQAM. Monsieur Colin Pratt, qui a justement travaillé sur une étude qui, et je le résume comme ça, 10 entreprises sont responsables de la moitié des GES dans le secteur industriel du Québec. Parlons de ensemble. Bonjour, M. Pratt.
Bonjour, M. Lavoie. Une petite précision, l'Institut est indépendant et n'est pas affilié à aucune université.
Ah, bon, ben, très bien. Alors, parlez-nous de votre étude indépendante. Votre bilan général, c'est, il n'est pas en soi particulièrement surprenant, c'est que le secteur industriel pèse plus lourd et à l'intérieur du secteur industriel, ben, il y a quelques gros joueurs qui, eux, ont une empreinte carbone plus importante que d'autres.
Oui, on a découvert qu'il y a 10 entreprises au Québec qui sont responsables de la moitié des émissions du secteur industriel au Québec. Et l'ensemble des actionnaires de ces entreprises-là sont situés à l'étranger. Fait qu'on se retrouve dans une situation où la pollution reste ici, tandis qu'une partie des retombées économiques des activités, dans ce cas-ci les profits, sont évacués à l'étranger. Ouais. On est en quelque sorte doublement perdant parce que le bilan des gaz à effet de serre continue de s'alourdir tandis que les retombées économiques, eux, nous échappent en partie.
Monsieur Pratt, j'ai bien lu votre étude. J'ai été surpris de cette espèce de conclusion qui a plus l'air un espèce d'appel du pied pour en énerver certains. J'ai un problème avec ce lien que vous faites, qui pour moi fait pas, peut-être que vous allez me corriger, mais qui n'est pas du tout une conversation environnementale. Parce que l'Alcan, qui est. Puis si on fait le bilan GES au Québec, là, l'aluminerie, c'est probablement un des secteurs qui pèse le plus lourd. L'Alcan était de propriété canadienne avec son siège social à Montréal, a été vendu à Rio Tinto, qui a son siège social à Londres. Si demain matin, Rio Tinto devenait de propriété québécoise, est-ce que ça change le bilan GES au Québec?
Non, c'est de voir le portrait autant sur son volet économique qu'écologique, au sens où la transition écologique du secteur industriel aujourd'hui peut être motivée pour des raisons économiques, la question de l'actionnariat étranger qui nous est défavorable, et aussi, au 21e siècle, de plus en plus, se pose la question de l'écologie, une empreinte carbone qui est disproportionnée par rapport à la contribution à l'économie québécoise. Je vous cite une autre statistique, 72 établissements au Québec qui sont responsables du trois quarts des GES du Québec, du secteur industriel, 72 établissements qui sont responsables de 22% de l'ensemble des GES du Québec. Ces 72 établissements-là emploient moins de 1% de la main-d'œuvre québécoise.
Oui, mais poussons plus loin, là, M. Pratt, parce que je m'excuse, mais c'est une logique que vous pourriez. Les ratios dont vous nous parlez seraient probablement les mêmes à peu près partout sur la Terre, parce que tous les secteurs ne sont pas égaux entre eux. Je peux mettre 40 Ubisoft sur le secteur informatique ou le secteur de la santé ou le secteur, de la recherche et du développement. C'est pas la même chose que le secteur pétrochimique ou le secteur industriel. Mm-hmm. Alors, c'est comme si vous disiez, ben là, si on n'avait pas de secteur d'aluminium, ben là, on serait correct. Mais à la fin, l'aluminium, je peux pas le produire là, à côté de Berry-UQAM, là.
Fait, puis on s'entend là-dessus. Monsieur Lavoie, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'échelle du Québec, la question de l'emploi et du secteur industriel est moins élevée qu'on le pense. Et lorsqu'on raffine le portrait, puis ce qu'on a fait, c'est de voir est-ce qu'il y a des municipalités, est-ce qu'il y a des localités au Québec qui sont particulièrement dépendantes d'un emploi associé à une industrie dite polluante. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des municipalités pour qui plus de 40% de la population active dépend d'un tel emploi. L'intérêt d'avoir ce portrait-là, puis c'est notre contribution à la discussion ce matin, c'est de ventiler sur le plan géographique cette question de l'emploi et de la pollution pour comprendre ou intervenir ou planifier la transition écologique des industries au Québec. Parce que si on rate année après année nos cibles que le Québec nous donnons depuis le tournant des années 90-2000, c'est en partie parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui a pris au sérieux cette question-là. Puis le point de départ, c'est de dresser un portrait.
OK, pause. Justement, moi, il y a une chose que je veux voir avec vous, là. C'est ce qu'on pourrait appeler, si on était dans le domaine financier, le périmètre comptable. Le périmètre comptable de l'empreinte GES du Québec, est-ce que c'est le bon? Je vous donne un exemple. Prenons le secteur de l'aluminerie. L'aluminium fait au Québec est, toute chose étant égale par ailleurs, beaucoup plus vert que l'aluminium qui serait produit dans le Midwest américain ou que l'aluminium qui est produit en Chine. Pourquoi? Parce que pour faire de l'aluminium, le genre 316 de la chose, c'est l'alimentation en énergie. La nôtre, c'est de l'hydroélectricité. C'est probablement du charbon en Chine ou sinon dans le nord-est des États-Unis. Votre périmètre comptable, il faut le penser au niveau global parce que les GES, c'est quelque chose d'infiniment global. Est-ce que, par exemple, pour les fins de notre discussion, de quadrupler la production d'aluminium québécois pour diminuer d'autant de la production d'aluminium ailleurs en Amérique du Nord qui, elle, serait produite par du charbon, est-ce que ce n'est pas, environnementalement parlant, meilleur que seulement de le regarder à l'échelle québécoise? Le périmètre comptable que vous nous dressez ne fonctionne pas parce que les GES ne s'arrêtent pas aux frontières du Québec.
C'est un point important à considérer. Vous avez raison, les normes au Québec sont plus élevées qu'ailleurs, mais ce n'est pas non plus une raison pour baisser les bras. Puis,
mais ce n'est pas une question de baisser les bras. Là. Je vous pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas augmenter la production d'aluminium au Québec en échange de réduire d'autant la production d'aluminium ailleurs aux États-Unis, alimentée par du charbon? Ma conversation ici, elle n'est même pas au niveau de l'empreinte économique, elle est au niveau de l'empreinte des GES.
Oui. C'est une excellente question. Puis ce qui est intéressant avec tout processus de transition puis de débat. L'intérêt, c'est de inclure aux questions que nous débattons, vous et moi aujourd'hui, les communautés concernées, les salariés, les travailleurs, les municipalités, l'État et aussi les entreprises, chose qui n'est pas fait jusqu'à présent. On appelle ça un processus de planification démocratique de cette transition-là, afin que ces questions-là soient examinées par les acteurs concernés. Jusqu'à présent, par exemple, en Alberta, pour sortir du charbon, les questions parmi les questions que vous soulevez ont été débattues, mais ça a été seulement une affaire entre l'État et l'entreprise privée.
Okay, mais poussons quelque chose plus loin, M. Pratt. Si on était, par exemple, sur le plancher d'une usine, la santé et sécurité au travail, elle est 100% payée par l'employeur. Et la logique derrière ça, c'est que c'est l'employeur qui a la capacité de poser un garde ou d'instituer une mesure de sécurité ou de changer un procédé. Ces choses-là sont acquises et ça fait énormément de sens que ce soit comme ça. On pourrait dire la même chose pour la production plus ou moins polluante d'un procédé industriel. Si nos dollars devraient financer la transition écologique juste, prenons le cas de l'Abitibi, le secteur minier, est-ce qu'on ne devrait pas à ce moment-là accepter, ou est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on finance l'entreprise privée en échange de gains de GES? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
C'est ce qu'il faut planifier. C'est exactement les questions qui doivent être mises sur la table par un processus de planification digne de ce nom qui se fait attendre. Puis j'aimerais pouvoir répondre à vos questions qui sont excellentes. Ça dépasse le spectre de notre recherche parce que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire ce processus-là, ce ne sera pas nous, notre institut, qui va le faire tout seul dans son coin puis qui va porter la bonne nouvelle.
Mais là-dessus, M. Pratt, juste dans la manière dont vous le présentez, je crains que ça puisse être interprété comme si vous mettiez au banc des accusés des mauvais citoyens, ceux qui travaillent dans des industries plus polluantes. Et la manière dont c'est présenté, il y a un peu de ça en filigrane.
Ah, mais c'est au contraire. L'objectif ici, c'est de dresser un portrait pour justement éviter des désastres sociaux. Parce que on parle de la carboneutralité d'ici 2050. Si on veut que ce soit autre chose qu'un simple slogan politique, là, il faut étudier les réalités socio-économiques régionales que vous évoquez, qui sont complexes et qu'on doit traiter pour ce qu'elles sont. Et le point de départ, c'est notamment de produire de la bonne information. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en établissant, par exemple, qu'il y a des municipalités dont plus de 70% de la population active dépend d'une industrie polluante.
À ce moment-là, on a moins de temps, mais à ce moment-là, il faudra voir, M. Pratt, à quel point, quand on parle d'industrie polluante, c'est sûr que de comparer l'aluminium aux jeux vidéo, c'est pas une comparaison juste. Il faut comparer l'aluminium par rapport à l'aluminium produit ailleurs dans le monde. Et peut-être que là, finalement, ces gens-là contribuent davantage à baisser le bilan carbone s'ils empêchent que l'on développe davantage du même produit, mais avec un procédé infiniment plus polluant. Colin Pratt, qui est le co-auteur de cette étude et qui est chercheur à l'IRIS, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous, au revoir.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques. Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Allô, Guillaume.
Bon, Marie, là, finalement, ça a fini par arriver. Il y avait un vent... Il y avait un front de virus qui se propageait au-dessus de l'Ontario, qui a fini par atteindre le Collège des médecins. Mais là, finalement, le gouvernement du Québec s'est prononcé. Là.
Ben oui, écoute, c'est comme un petit peu le jour de la marmotte aujourd'hui. C'est la neige qui revient, c'est les rappels de mettre vos pneus d'hiver et c'est aussi le retour des conférences de presse sur les virus, la COVID, la question du masque. Écoute, moi, spontanément, j'ai regardé cette conférence-là, puis je regarde tout ce qu'il dit autour là, depuis que le ministre Dubé et Luc Boileau, directeur de la Santé publique, ont pris la parole. Je me pose beaucoup de questions sur comment les gens arrivent à se retrouver dans tout ça. Puis je m'explique. Tu sais, dans la conférence de presse, d'un côté, il dit le masque, c'est une mesure très efficace. Mais ce ne sera pas obligatoire. C'est recommandé. Là, après ça, il y a plein de commentaires qui sont faits par plein de gens. Est-ce que si tu ne le portes pas, es-tu un mauvais citoyen? Comment on va être perçu si on décide de ne pas adhérer, même si on n'est pas un anti-vax, là, puis qu'on a suivi toutes les recommandations depuis le début, puis qu'on s'est fait vacciner, puis qu'on pensait qu'on était passé à travers ça? Donc, ça, tu sais, ça soulève des questions. Puis là, les recommandations, donc c'est dans les lieux publics achalandés que le port du masque est recommandé, mais pas dans les écoles et pas dans les garderies.
Donc, ça,
la même semaine, t'as l'Ontario qui est juste à côté qui fait une recommandation contraire, qui dit c'est recommandé dans tous les lieux publics, dont les écoles et dont les garderies. Donc, je trouve que, tu sais, au niveau de la confusion du public, tu dis, je pense pas que les tu sais, on n'a pas un ADN, puis on n'a pas un système immunitaire qui est très différent de nos voisins de l'Ontario. C'est des situations à l'heure actuelle qui sont quand même similaires. Ça fait des semaines qu'on parle, puis qu'on voit des reportages sur les hôpitaux de pédiatrie qui débordent. Je trouve, tu sais, on s'en est déjà parlé, qu'en santé publique, l'enjeu primaire, c'est toute la question de la cohérence de ton message. Je me demande comment les gens reçoivent ça aujourd'hui. C'est ma grande question.
Mais Marie, est-ce que là-dessus, j'entendais, je pense que c'est le docteur Boileau qui le dit, à moins de me tromper, c'était peut-être le ministre Dubé. On voulait pas le rendre obligatoire parce que on est, puis là, il y a peut-être du sous-texte, là, on n'est pas sûr que les gens vont le suivre. Parce qu'il y a pire, à la fin, tu peux faire les lois que tu veux, les décrets que tu veux, il faut que tu sois capable de les faire appliquer. Et le gouvernement semblait très réticent à vouloir aller dans cette direction-là. Si demain matin, il obligeait le masque, est-ce que ça va faire pire que bien, là? C'est-à-dire qu'il va avoir un impact sur la fréquentation des 10 lieux publics. Il va y avoir des gens qui ne le porteront pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient là, des policiers qui devaient sortir des clients qui refusaient de le porter. Je peux pas croire qu'on navigue à vue. Là. On a assez d'expérience maintenant au gouvernement pour gérer ces dossiers-là. Là.
Si tu l'obliges, il faut que tu puisses avoir des conséquences dans la mesure où ton obligation elle n'est pas suivie. Là, je pense qu'il n'y a pas une volonté justement de remettre en place tout un système de policiers ou en tout cas qui vont venir encadrer ça. Mais c'est juste que ce qu'on se demande à la fin de la journée, c'est ça fait-il une différence ou pas d'avoir fait ce point de presse-là qui, oui, est tout en nuance, mais c'était pas fortement recommandé. Je te donne un exemple aussi, ça me fait un peu sourire. J'ai vu ça passer. Donc, à la conférence de presse, tu as le ministre qui arrive avec son masque, le directeur de la santé publique aussi, son sous-ministre qui est responsable de la crise aussi. Les trois arrivent avec un masque et dans la convocation, pour dire finalement, conférence de presse, essentiellement pour rappeler bon qu'il faut aller se faire vacciner, mais aussi qu'il faut porter le masque, c'est recommandé. Puis dans la convocation de la dite conférence de presse, il est vraiment écrit que le masque peut être porté pour les journalistes qui sont là sur une base volontaire. Tu sais. Puis là, ça reste sur une base volontaire quand c'est recommandé, mais je trouvais que juste dans le choix du libellé, si tu le recommandes, ben écris au moins que, par exemple, dans ta conférence de presse, le port du masque est recommandé pour les gens qui sont présents, parce que c'est ça ta consigne que tu vas donner. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais ça va être intéressant de voir, Marie, parce que est-ce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu public? Parce que c'est aussi un lieu de travail, c'est aussi un lieu public. Ça va être le fun de voir qu'est-ce qui se passe là. Mais quelque part, est-ce que c'est pas un réflexe, peut-être soit une société jeune ou nord-américaine, dans les sociétés asiatiques, c'était pas du tout hors du commun de voir des gens porter des masques lorsque, c'est une espèce dans la culture, là, si j'ai la grippe, je porte un masque, ce qu'on n'aurait pas vu avant. Là. Avant, ça attirait l'œil de voir quelqu'un avec un masque dans le métro ou dans un lieu public. Aujourd'hui, les gens en portent, soit parce qu'ils sont immunosupprimés ou parce qu'ils ont un virus à ce moment-là. Est-ce qu'on va se diriger tranquillement vers ça, c'est-à-dire une espèce d'acculturation, que le masque, c'est quelque chose que l'on porte, dépendamment de son état de santé à un certain moment, sans égard à la saison ou sans égard aux recommandations gouvernementales?
Ben, c'est des réflexes qu'on devrait développer un petit peu comme le lavage de mains. Tu regardes dans les trois dernières années à quel point il y a beaucoup d'accent qui a été mis sur la question du lavage des mains. Puis je écoute, t'as plein d'études malheureusement en santé publique qui démontrent que ben t'as plein de gens qui vont à la salle de bain puis qui se lavent pas les mains quand ils sortent, puis qui touchent des poignées de porte, puis qui se serrent la main à quelqu'un d'autre. Puis là, la grippe se transfère comme ça et plein d'autres virus et microbes. Et donc c'est des réflexes qu'il faut apprendre, ouais, justement, particulièrement dans des pays comme le nôtre où on vit à l'intérieur. Donc, c'est un peu la même chose pour le masque. Tu sais, c'est pas une contrainte épouvantable que de porter un masque pour protéger les autres quand tu fais de la fièvre, quand tu es malade, quand tu as des symptômes, tu sais pas trop ce que tu as. Ben, je veux dire, c'est de la même façon que tu vas pas nécessairement chez des gens ou si tu as un souper, tu reçois des gens, si tes enfants sont malades, tu sais, je veux dire, qui sont porteurs de tu sais, là, avec les tout petits, là, est-ce que c'est la gastro, est-ce que c'est une conjonctivite, est-ce que
ouais, c'est. Oui, habituellement, tu peux tracer, tu sais, tu peux tracer les gens qui tombent malades chez toi en fonction de comment ça va à la garderie, puis là, tu peux dire, ah, tiens, dans une semaine, je devrais être malade. Tu peux presque le planifier comme ça. Il y a peut-être quelque chose de générationnel là-dessus, Marie. Tu vois, quand j'étais petit, on me disait, tu sais, on fallait mettre sa main devant sa bouche quand on toussait. Aujourd'hui, tu tousses dans le coude.
C'est le coude.
Alors, non, peut-être que dans 20 ans, ça va être dans l'épaule. Il faudra être plus flexible. Marie,
ben, peut-être qu'on même, justement, la dite poignée de main, tu vois, on l'a quand même éliminé un petit peu, beaucoup, dans les trois dernières années. Tu sais. Donc, il y a des réflexes comme ça, des codes sociaux qu'il faut peut-être revoir. Là.
C'est ça. Là, allons sur un sujet qui est très proche de ton cœur, mais qui est en plus très intéressant. C'est cette vingtaine de scientifiques qui ont fait une sortie en disant il devrait y avoir une formation obligatoire en environnement ou sur les questions environnementales pour les députés. C'est une idée intéressante. Je serais curieux de voir ce que toi, tu en penses. Moi, j'ai quelques réticences, là.
Écoute, moi, je pense que c'est essentiel. C'est un plaidoyer, c'est une lettre ouverte qui a été signée par une vingtaine de scientifiques assez somme toute connus là dans le milieu des changements climatiques, du climat, de l'environnement, et qui demandent la mise en place de d'une formation obligatoire pour l'ensemble des élus. Là, ils visaient spécifiquement les députés de l'Assemblée nationale. Moi, je te dis, écoute, ma réponse, elle est simple. Oui, c'est essentiel, c'est nécessaire, et j'irais plus loin que ça. Je crois que c'est le genre de formation qui devrait s'appliquer à l'ensemble des hauts fonctionnaires du gouvernement parce qu'ils sont impliqués directement dans les orientations gouvernementales, dans les décisions, dans les différents projets. Puis, tu sais, on le sait, là, il est un peu, je sais pas si c'est minuit, moyenne, minuit, minuit, une, là, mais on a des enjeux au niveau de l'urgence climatique qui sont vraiment importants. Moi, j'ai siégé 8 ans et demi à l'Assemblée nationale et j'ai vu tout et n'importe quoi se dire sur la question des changements climatiques. Et si on veut s'assurer de que nos élus, justement, avancent tous dans la même direction, il faut que ça commence par un socle de connaissances qui est partagé pour avoir des débats qui sont transpartisans, qui sont informés, puis arrêter aussi de sortir de l'éternel débat de chiffres. Ça, on revient tout le temps à « c'est quoi le chiffre pour la cible de réduction des émissions de GES? » Puis là, c'est-tu 37, c'est-tu 40? Puis là, tu sais, ça se relance là-dessus. L'enjeu, il n'est pas juste là. Comprends-tu ce qui se passe? Est-ce que tu sais, je regardais, il y a des élus qui sont pas rendus encore à la question de l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Ils sont encore seulement sur un discours de lutte au changement climatique, alors qu'on sait que les conséquences économiques pour le Québec, elles vont être extrêmement importantes. Elles le sont déjà. Là, on voit l'érosion des berges et tout dans certaines régions du Québec. Les conséquences pour la santé sont déjà importantes, vont l'être de plus en plus avec la question des canicules notamment. Donc oui, c'est essentiel.
Mais là-dessus, je partage ton sentiment, Marie, mais pour moi, là où je pense qu'il y a eu une erreur dans le plaidoyer, c'est de dire que ça devrait être une formation obligatoire. À la fin, on choisit nos élus, puis il y a un million de facteurs qui fait ça. Nos partis politiques devraient être jugés sur... Parce que c'est la job des partis politiques, là, de dire, hey, moi, j'ai des élus, j'ai une équipe, j'ai un caucus qui travaille ensemble, pas au Parti libéral, mais partout ailleurs, et je dois contribuer à leur formation. Je dois les exposer à ce que ça devienne des meilleurs élus, des meilleurs administrateurs publics. Moi, j'ai vu ça, là, je suis sûr que toi aussi, des élus qui n'ont jamais compris un budget de leur vie, des élus qui comprennent même pas que la Constitution existe. La moitié, c'est un peu exagéré, presque la moitié du budget du gouvernement du Québec, c'est la santé, on pourrait rajouter les services sociaux pour aller un peu plus loin, et est-ce que ces gens-là ont une formation dans la compréhension des enjeux de santé publique, de système de santé, d'administration publique de la santé non plus. Ma question, c'est pourquoi obligatoire l'environnement et pas les autres choses? Puis là, on se dit, ben non, il y a bien d'autres choses. Moi, quand j'étais dans le dossier de l'économie collaborative, des élus qui disaient n'importe quoi, il n'y en avait pas juste un. Alors, mais c'est le rôle des partis politiques de pousser ça. Et c'est à nous, les électeurs, de juger est-ce qu'il me semble stupide ou connaissant. Moi, je voudrais voir des communiqués de presse de la part des partis politiques qui disent, ben, pendant notre caucus pré-sessionnel ou notre caucus de préparation d'une session, on va recevoir une formation poussée sur telle chose. Nous avons un programme de développement des compétences ou de formation pour chacun des élus. Qu'est-ce que les élus font pendant leurs 4 ans de mandat pour améliorer leurs compétences? J'aime pas l'idée que ce soit obligatoire.
Ben, moi, je crois pas en ce qui est optionnel, je vais te le dire comme ça. Je pense que l'obligatoire, puis là, on parle pas d'une formation de 4 semaines, là. Une bonne formation de base, ça peut se faire en quelques heures. Puis oui, l'horaire d'un élu, l'horaire d'un député est très chargé, là. Regarde, j'ai fait ça pendant des années, mais ça se rend très, très bien dans des plages horaires communes. À 18h le mercredi, tous les élus sont à l'Assemblée nationale. La Chambre est à journée, puis de toute façon, il faut qu'ils restent au jeudi. Donc, tu sais, si on veut les faire.
Je dis pas, Marie, qu'il y aurait de la place ou pas dans l'agenda. C'est que moi, je veux, comme électeur, récompenser ou punir des élus qui contribuent à devenir de meilleurs administrateurs publics.
Non, mais ça, je comprends, Guillaume, mais tu vois, pour prendre un autre exemple. Par exemple, il y en a des formations déjà qui sont suivies par les élus. Dans les dernières années, tu as eu une formation qui a été ajoutée concernant les réalités autochtones. On en a assez peu parlé sur la place publique. Moi, ce que je peux dire, c'est que tous les élus l'ont suivi et j'ai vu directement dans notre travail de législateur comment il y a un réflexe qui a été développé de s'assurer de tenir compte de ces réalités-là. Ce qu'on faisait moins, je te dirais, ça nous a sensibilisés et j'ai vu dans des projets de loi concrètement des amendements qui ont été ajoutés justement parce que cette formation-là avait été faite, de dire, ah, oups, un instant, je vais ajouter un amendement parce que est-ce qu'on a collectivement pensé à ajuster telle chose. Donc, ça vient bonifier le travail des législateurs et ça se fait ça se fait à notre profit.
Alors, Marie, espérons qu'en attendant, parce que je pense pas que l'obligation va arriver, mais peut-être que ça devrait être intéressant comme question les journalistes peuvent poser un vrai incitatif politique. Là. Monsieur, Madame, Président du caucus, quelle formation vous avez prévue cette année? Et on va vous suivre et on va vous questionner là-dessus. Et là, imagine un parti qui n'aurait pas de rien sur l'environnement. Il n'y a rien de plus fort dans le système politique qu'un incitatif politique. Mais on va en reparler, certainement. Marie Montpetit, merci beaucoup. On se reparle.
À demain, Guillaume.
Au plaisir.
Se reparle.
Le morceau manquant de votre casse-tête. Le petit détail de plus à votre information. La valeur ajoutée à votre écoute. Son nom, Guillaume Lavoie.
Débutera bientôt le sommet de la francophonie et justement, quelle position ou contribution le Québec peut-il avoir dans cet ensemble international, dans cette organisation internationale qui est un peu particulière parce qu'elle est dédiée non pas à un objectif économique en soi, ce qui est un peu le classique, mais à la promotion et au succès et à la célébration d'une langue. Eh bien, pour en parler, qui de mieux que Mme Louise Beaudoin, ancienne ministre des Relations internationales et de la francophonie au Québec, qui écrivait ce matin une lettre ouverte adressée au premier ministre Legault en vue de ce sommet qui s'en vient. Mme Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait grand plaisir. J'allais dire Mme la ministre Beaudoin parce que vous avez incarné le rôle de manière tellement marquante. Alors, parlez-nous d'abord, parce que l'Organisation internationale de la francophonie a eu des fois de la place dans les médias pour des mauvaises raisons. Rappelez-nous sa mission première et pourquoi est-ce qu'on devrait s'en intéresser? Pourquoi c'est important que le premier ministre du Québec y soit?
Ben, sa mission première, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une coopération dans tous les secteurs, d'ailleurs économie, culture, santé, les sciences, etc., entre pays francophones et entre francophones. Les pays francophones, il y en a quoi, 32, 34, qui ont le français comme langue officielle ou comme une de leur langue officielle, et puis d'autres qui l'ont comme langue justement de travail dans certains pays d'Afrique, ou enfin bon. Alors, mais ça fait bien du monde quand on additionne tout ça. Ça fait quand même pas loin de 300 millions de parlants français à travers le monde. Et cette organisation-là, qui est une organisation intergouvernementale qui réunit donc des gouvernements et des États, organise un sommet normalement tous les deux ans. Là, ça fait 4 ans qu'il n'y en a pas eu à cause de la pandémie. Et ils doivent justement, cette fois-ci, plus particulièrement s'attaquer à la question du numérique.
Madame Beaudoin, justement, on parle du numérique qui est dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, où le rouleau compresseur de l'espéranto moderne, qui est la langue anglaise, dans quelle mesure, quelles sont les pistes de solution? Est-ce que c'est un espoir raisonnable ou réaliste de mettre plus de français dans le numérique?
Ben, je pense que notre volonté collective, celle des gouvernements et celle des locuteurs de français, parce qu'on peut en douter à certains moments, mais si la volonté était là, je crois que oui. Parce que le français demeure quand même une grande langue internationale. Puis dans le fond, l'objectif premier de la francophonie, ça devrait être de maintenir le français en tant que grande langue internationale, avec l'espagnol, avec l'arabe, bien sûr, d'autres langues. Mais le français est 4e ou 5e langue parlée dans le monde. Puis sur l'Internet, il y en a du français. Mais comme vous le disiez, il y a un rouleau compresseur qui est apparu avec les grandes plateformes, surtout américaines, et qui font en sorte que ils ont pris possession non seulement de la tuyauterie, si je peux dire, mais aussi de plus en plus des contenus. Et les nôtres sont noyés carrément dans l'univers donc de ces grandes plateformes, que ce soit Netflix ou les autres, là. Alors il faut qu'on trouve une façon, moi je dirais, d'avoir accès facilement au contenu francophone, pas seulement québécois, mais je parle francophone en général, bien évidemment, beaucoup plus aisément et facilement, et que la découvrabilité, donc, parce que ce qu'on produit est aussi formidable que ce que les hispanophones, les lusophones, les anglophones, etc. produisent. Et nous, les francophones, il faut trouver notre place là-dedans. Et je crois que c'est vraiment une question de volonté économique et politique. Et puis,
à ce moment-là, Mme Beaudoin, il y a peut-être deux approches qui se font face si on décide que l'on veut être par-delà des sentiments nobles, mais être dans l'opérationnalisation des choses.
Ouais.
Ou bien, vous avez utilisé l'expression la tuyauterie, on se dit il faut que le français ou le contenu francophone émerge plus haut dans l'algorithme. Ouais. Ça, c'est une stratégie 1. Ou sinon, il faut avoir sa propre tuyauterie. Il est peut-être difficile d'envisager les deux stratégies de front. Est-ce qu'on ne devrait pas choisir clairement un objectif plutôt qu'un autre et de le pousser?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que, justement, c'est une des questions qui se posent. C'est pour ça que je parlais ce matin avec Clément Duhem, l'ancien administrateur de la francophonie, que j'ai écrit ce texte-là. TV5, Monde Plus, il y a eu des petites tentatives. Hein? Ça existe quand même, comme Tout TV, comme Illico, comme d'autres plateformes. Mais là où on est absent, c'est dans les grandes plateformes, là, ce qu'on appelle les GAFA ou les GAVAM, enfin, etc., les Google, Facebook, etc. Est-ce que c'est possible? Peut-être qu'on a raté notre tour, peut-être que. Mais si on ne fait pas ça, il faut mettre tous les efforts. Et là, même législatif, là, le Canada commence à se réveiller très, très tardivement, là, en déployant donc la loi C-11 qui n'est encore pas adoptée. Mais pour imposer à ces grandes plateformes-là, parce qu'ils ne le feront pas par charité chrétienne, là, puis ils ne le feront pas spontanément, leurs algorithmes, en effet, sont pas conçus pour ça. Alors, il faudrait qu'on ait une manière de leur imposer. C'est de leur imposer, il n'y a pas d'autre solution.
Est-ce que l'imposition peut vraiment fonctionner? Puis laissez-moi dire, à la limite, quelque chose, une énormité, ne serait-ce que pour vider la question ou l'explorer pour des fins d'exercice, là. Est-ce qu'on pourrait envisager que des promoteurs de contenu francophone décide de faire un accord commercial, soit à la limite de payer les plateformes pour dire « je veux que le contenu francophone sorte haut », comme font bien sûr les autres studios de production ou ailleurs. Peut-être que nous qui sommes moins forts, qui n'avons pas la force du nombre ou de l'inclinaison naturelle du monde culturel ou cinématographique, forcer le jeu en disant « nous allons faire la promotion, dollars sonnant et trébuchant aidant, pour que le contenu francophone ait sa place au centre de l'échiquier ».
Bon, c'est certainement une hypothèse, mais on peut pas le faire seul. C'est pour ça que je parle de la francophonie multilatérale. Je veux dire, si on parle au nom de 300 millions de personnes, il y a une force de frappe plus importante que si on parle au nom des 8, 9 millions de francophones canadiens. Là, j'entends canadiens, Canada, là, l'ensemble du pays. Alors, cette force de frappe-là, on l'a eu pour convaincre l'UNESCO d'adopter donc une convention en 2005, tous ensemble, les francophones, concernant la diversité culturelle, qui a eu comme effet de rendre, je dirais, juridiquement possible l'exclusion de la culture des accords de libre-échange pour ceux qui le veulent. Bien évidemment, personne n'est obligé, s'il y en a qui veulent marchandiser leur culture libre à eux.
C'est la fameuse exception culturelle française, là.
Oui, exact, mais ça a marché. Je veux dire, bon, parce que si on voit le Canada, quand il fait ses accords de libre-échange, il fait référence maintenant, constamment, à chaque fois, à cette convention de l'UNESCO. Moi, je pense qu'il faut une convention linguistique aussi, qui met les langues, en fait, les langues partenaires dans la francophonie, qui sont souvent des langues africaines, mais qui sont très largement parlées. Donc, que les langues qui sont pas spontanément, en effet, repérables sur la toile, sur l'Internet, ben qu'elles puissent exister. Là,
oui, à ce moment-là, Mme Beaudoin, c'est pas juste une bataille du français, c'est une bataille de toutes ces langues qui risquent d'être écrasées par l'anglais. Ce serait le suédois, le néerlandais ou encore le danois. Et là, il y a une espèce de coalition, j'allais dire, interlinguistique qui peut pousser ça.
Oui, alors la francophonie devrait prendre le leadership de cette coalition, en effet, multilatérale, internationale. Mais il faut que ça parte de quelque part, n'est-ce pas? Et par conséquent, je pense que la francophonie est toute désignée pour faire ce qu'on vient de dire. Vous avez raison, vous dire pour des langues qui sont très minoritaires, mais qui veulent continuer quand même à exister.
Ben
dans
voilà.
Un monde qu'on prétend, tout le monde a le mot diversité à la bouche, là, c'est le nouveau mantra, mais quand on regarde dans la réalité de ces grandes plateformes-là...
Ben voilà notre défi. Louise Beaudoin, je rappelle que vous avez été ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci beaucoup de votre contribution à notre émission aujourd'hui.
Merci.
Au plaisir.
Vous écoutez Guillaume Lavoie. Le professeur qu'on aurait tous voulu avoir.
Cube Radio. En direct à LCN.
Maintenant, le moment de notre rendez-vous avec Guillaume Lavoie. On va aller le rejoindre dans les studios de Cube. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Marianne.
Parlons tout d'abord de la situation en Pologne, alors qu'on le sait, il y a eu ce missile qui s'est écrasé du côté polonais, deux personnes qui sont décédées à ce moment-ci. À un certain moment, on aurait pu s'est posé la question à l'international, est-ce que c'est un geste direct de la Russie, provoqué de la Russie? Il apparaît que ce serait pas le cas, là. Tout porte à croire que ce serait pas le cas. On comprend qu'il y a une espèce de soupir de soulagement de tout le monde, là, Guillaume.
Oui, parce que tout le monde, effectivement, était un peu sur les nerfs, il faut le comprendre,
ouais.
Parce que c'est un débordement du conflit qui aurait des conséquences très importantes. La Pologne, c'est pas juste un autre pays voisin de l'Ukraine, c'est un membre d'une coalition militaire qui s'appelle l'OTAN, et nous sommes membres de l'OTAN, et il y a un peu une clause, c'est l'article 5, ce qu'on pourrait appeler la clause mousquetaire, un pour tous, tous pour un. Si vous attaquez un des membres, tous les autres vont venir à sa défense. Et la dernière chose que l'on voudrait, c'est une confrontation directe entre des puissances nucléaires, ici les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et la Russie. Il n'y a rien de ça qui est rassurant pour l'avenir, non seulement du monde, mais de la civilisation humaine. Alors, là-dessus, les informations au départ laissaient entendre que ça puisse être un missile russe. Là, maintenant, nos informations sont davantage que ça pourrait être un missile ukrainien qui était un missile antimissile qui visait probablement à empêcher un missile russe de tomber sur le territoire ukrainien. Mais dans tous les cas de figure, la bonne nouvelle dans tout ça a probablement été un certain calme et retenu du côté américain, par exemple, ou
une prudence,
du côté polonais. Parce que Joe Biden le disait, il citait là-dessus une citation particulière de John F. Kennedy, où il disait « Il y a une chose de pire que de devoir faire une guerre obligée, c'est de devoir faire une guerre accidentelle ou sur des raisons qui n'ont pas été bien planifiées. » Parce qu'il y a un jeu, et ça avait été le drame de la Première Guerre mondiale, cette espèce de jeu de dominos, de conséquences obligées dues à des alliances. Et dans ce contexte-ci, la dernière chose dont on a besoin, c'est des gens qui sont des va-t-en-guerre, qui se cherchent des prétextes pour amplifier ou élargir le conflit. Au contraire, peut-être même si ça avait été un missile russe, peut-être que la Russie aurait pu prendre elle-même les devants en disant « c'est une erreur pour laquelle nous prenons notre responsabilité » et ceci n'aurait pas arrivé. Ouais. Et ça permet de remettre un peu le tube dans la pâte dans le tube dentifrice pour au moins essayer de confiner ce conflit-là sur les bases actuelles.
Il faut également parler de Donald Trump. Évidemment, il lance sa campagne à la course à la présidence. Écoutons un peu comment il a amené le tout.
I do want to point out that in the midterms, my endorsement success rate was 232 wins and only 22 losses. You don't hear that from the media. I will ensure that Joe Biden does not receive four more years in 2020. Our country could not take that. And I say that not in laughter. I say that in tears. In 2020, I received the largest number of votes of any sitting president in history by a lot. And we will do it again, but with even more votes this time.
Guillaume, est-ce qu'il veut contrecarrer ses adversaires potentiels ou se mettre à l'abri de ses ennuis judiciaires en se lançant tout de suite?
Mais il y a probablement quelque chose qui il le pousse profondément à vouloir être au centre de la lumière, et ça, c'est la manière la plus forte et il permet de continuer son narratif. Tout son discours était un festival de faits alternatifs. Il n'y a qu'une seule personne qui pense que Donald Trump a eu une bonne soirée le soir des élections de mi-mandat, et c'est Donald Trump. Mais vous savez, c'est Mark Twain qui disait qu'un mensonge peut faire le tour de la Terre pendant que la vérité attache ses souliers. C'est un peu ça que l'on voit ici. Une vérité alternative poussée par sa base. Et là, la grande question au sein du Parti républicain, c'est parce que, oui, Trump a peut-être 20, 30, 35 % d'appui dans la base républicaine. C'est pas assez pour gagner. Mais en 2016, quand il a gagné contre ses adversaires républicains, ils étaient tellement nombreux que l'opposition à Trump était profondément divisée, ce qui lui a permis de s'imposer. Cette fois-ci, est-ce que du côté de ceux qui ne sont pas Trump et qui ne veulent pas Trump, il y aura une espèce de conciliabule entre eux pour dire, bon, si on est tous candidats, il va passer. Alors peut-être qu'il devrait y avoir une espèce de primaire avant les primaires ou une conversation dans la chambre des adultes pour dire s'il n'y a qu'un candidat ou deux contre Donald Trump, ses chances à Trump seraient probablement plus réduites. Et c'est ça la grande question qui est en train de se poser présentement du côté républicain.
Intéressant tout ça. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Guillaume.
Au plaisir. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit au plaisir et à demain et qui remercie au passage Charlie Marchand et Marianne Bessette qui sont les chevilles ouvrières de l'émission. Au revoir.
Cube Radio.